Annie Guillemette est en studio, notre reporter, donc, qui depuis hier nous parle de l'impact humain de la construction du REM et comment cet impact-là frappe les usagers du train de Deux-Montagnes et ceux de Mascouche et la suite aujourd'hui, ma chère.
Oui, et on parle des impacts sur les usagers, oui. Sauf que j'ai rencontré une vingtaine de personnes pour monter ce dossier-là. On parle des familles aussi, on parle des proches, des enfants et des autres obligations. Parce que Bernard, une vie, c'est pas simplement une famille et un boulot. Il y a aussi d'autres obligations. Mm-hmm. Et là, les gens qui vont passer plus de temps dans le train, ben la journée a toujours 24 heures.
Exact.
Il va avoir des impacts sur plusieurs facettes de leur société. On va commencer par écouter justement Cédric Boileau et Véronique Goudreau qui nous décrivent un peu pour eux, ça signifie quoi l'arrêt de service en janvier?
C'est 4 ans de calvaire qu'on doit littéralement survivre. Mon fils, quand je vais pouvoir repasser du temps de qualité avec lui, il va quasiment terminer son primaire. C'est pas normal. Au lieu de penser à Noël puis aux festivités, je pense plutôt à la date fatidique du 6 janvier.
J'ai un peu peur de l'impact que ça va avoir sur notre santé physique, mentale. Le soir, le train, est-ce que je vais réussir à me tanner pour le prendre? Est-ce que le métro va tomber en panne? Les services de garde ferment à 6 heures?
Oui, non, ça c'est sûr. Puis rappelons-le, là. Le 6 janvier, ça s'arrête complètement. Là. La ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes, c'est fini là, pour un certain nombre d'années. Là.
Oui, on parle en années. Ça sera long, la construction du REM. Et pour plusieurs personnes, on va parler de détresse, peut-être en février, peut-être en mars. Il y a déjà des gens qui appréhendent, Bernard. Deux histoires. Miranda Narouse, elle travaille à La Salle. Elle prend déjà 3 moyens de transport combinés matin et soir. Elle fait déjà des crises de panique, souffre d'anxiété et doit prendre des médicaments. J'ai parlé aussi à un homme qui s'appelle Francis Miller. Lui, il a déjà eu cette expérience-là. En quelques mois, il s'est retrouvé aux portes du burn-out. Donc, du côté des spécialistes en santé mentale au CIS des Laurentides, on est bien, bien conscient de ça. Déjà, on a des mesures de soutien psychologique qui sont prêtes. Bien sûr, il y aura des ponts qui seront offerts avec la ligne InfoSanté, le 811. Et on va aussi déléguer carrément un intervenant sur le quai du train qui sera là,
qui
va rencontrer les gens, qui va pouvoir les aider. Parce que je parlais au spécialiste Mario Jarquin, qui est directeur en santé mentale là-bas au CIS. Il me disait, écoutez, des choses comme ça, là, ça touche un tiers de la population. Il y en a un tiers qui vont vivre ça sans aucun problème, un autre tiers qui vont avoir un petit peu de... Ça va, il va avoir de la houle,
ils vont être bousculés, mais ils vont y arriver.
Mais il y a un tiers de la population qui va vivre vraiment de la détresse et on parle de symptômes importants. On écoute M. Jarquin.
Les premiers symptômes, c'est le manque de sommeil. Quand on est stressé, on pense comment on va s'organiser. Parfois, on n'a pas toutes les solutions. Et la deuxième, c'est l'anxiété, bien sûr, est angoissé. Et parfois, les gens sont irrités aussi. Je dirais un peu la frustration fait sortir... Je dirais la colère des gens, soit verbalement ou soit physiquement.
Donc, ça peut être important.
Je suis vraiment renversé. Qu'il y en ait autant de personnes qui soient frappées à ce point-là, qui soient troublées là, à ce point. Alors, continue, je t'écoute.
Et là, on a parlé des impacts personnels.
Oui.
En attendant, il y a tout le casse-tête logistique.
C'est sûr. Ça qui crée le stress, justement.
Oui, c'est ça.
Ben oui.
Et les plaintes sont nombreuses. Parmi les gens à qui j'ai parlé, Julie Boisclair me racontait qu'elle a passé 1h15 au téléphone simplement pour changer son titre de transport pour le mois de janvier.
Ah, ça nous rend dingue.
Donc ça, c'est le service à la clientèle. On critique aussi énormément le manque de consultation des usagers. Parce que vous savez, on va prendre un petit bout de train, un petit bout de navette, après ça le métro, après ça l'autobus. Ça devient compliqué et les gens ne s'y retrouvent pas. Mais la plus grande critique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix de trajet. Si vous habitez sur Exo 6, la ligne Deux-Montagnes, vous devez garder ce corridor-là. Si vous avez l'idée géniale de prendre votre voiture, d'aller prendre le métro à Laval, vous perdez tous les rabais de tarifs. On veut garder les gens dans leur corridor. Et la raison qu'on me donne à Mobilité Montréal, qui a mis en place justement toutes ces mesures-là, eh bien, c'est vraiment une raison d'achalandage. On va écouter Sarah Bensadoun, elle est porte-parole de Mobilité.
Cet axe-là a été privilégié parce qu'au niveau de la station Bonaventure et la branche ouest de la ligne orange de façon générale, il y a encore de la capacité. Ce qui n'est pas nécessairement le cas du côté est de la ligne orange, donc entre Montmorency et Berry, qui est déjà extrêmement achalandé, particulièrement pour l'heure de pointe du matin.
Donc,
Ouais, là, oui, là, je me demande, est-ce que c'est le système qui est au service de l'humain ou est-ce que c'est l'humain qu'on bouscule pour s'ajuster aux besoins du système?
On va voir ça le 6 janvier. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a déjà des gens qui prévoient changer de boulot dans les prochains mois.
Oui, changer de boulot, vendre leur maison, etc., mm-hmm, etc. Annie Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles, merci beaucoup.
Au revoir.
On s'arrête dans un instant. Après la pause, on va parler avec Dominique Champagne qui va nous amener notamment au Danemark et on va parler avec Valerie Roberts du décès de la chanteuse de Roxette. Parmi d'autres sujets, restez à l'écoute.